Les As de la copro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété, présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des As de la copro. Alors, on a retrouvé le studio, le grand studio chez nos amis Radio Immo. On retrouvera le prochain numéro, le studio TV, tout en bois, très écolo. Je représente mes invités, Pierre-Édouard Lagrelais. Bonjour Pierre-Édouard.
Bonjour Gilles.
Alors Pierre-Édouard, docteur en droit, grand spécialiste de la copropriété. Alors j'ajoute que maintenant il y a votre nom sur la couverture du code de la copropriété, le code bleu, LexisNexis.
Ouais, il vient de paraître. Et oui, j'en suis très fier.
C'est une fierté. Alors, bravo.
Merci beaucoup.
Alexis de Coster, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Donc, vous êtes toujours responsable métier, gérance gestion locative, copropriété, crédit agricole, service immobilier.
Tout à fait.
Marie-Hélène Leca, bonjour Marie-Hélène.
Bonjour, Gilles. Bonjour,
toujours directrice d'agence, responsable métier chez Auralia.
Toujours.
Et Mathieu Mialaret.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Bonjour Mathieu, toujours responsable, directeur métier, copropriété, gestion locative, administration de biens chez Foncia. Voilà, alors, on a une petite heure, on a pas mal de choses à voir encore aujourd'hui, le programme est consistant, on a pris des sujets aussi pas mal d'actualité, et on va commencer par la première séquence, le point juridique.
Les As de la copro, le point juridique.
La première question, c'est résolution groupée, est-ce valable ou pas ? On parle de quoi ? Résolution groupée, on parle d'une résolution d'Assemblée Générale. Il y a de la jurisprudence récente, mais même ancienne, mais ça revient un peu en force, qui dit que faire une seule résolution d'ensemble, ce serait valable. Il y a eu du contentieux, ça a été validé. Alors, dans la doctrine, on est encore un petit peu partagé. En tout cas, on est prudent. Donc, résolution groupée, au lieu de les saucissonner, c'est-à-dire au lieu de faire 4 ou 5 résolutions, une pour le principe des travaux, une pour le choix de l'entreprise, une pour la clé de répartition, une pour le calendrier d'appel de fonds, une pour les honoraires du syndic, une pour les honoraires de l'architecte, une pour la DO. Je crois que j'ai fait la liste complète. Là, on pourrait en faire une seule. Pierre-Édouard, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est le sens de la jurisprudence la plus récente. Je crois que pour que ce soit parfaitement intelligible, il faut revenir sur les principes qui sont énoncés par le décret de 1967. C'est-à-dire que l'article 9 impose, pour valablement délibérer en Assemblée Générale, qu'elle soit convoquée avec un ordre du jour et que cet ordre du jour soit accompagné, dans un certain nombre de cas, selon l'article 11, de projets de résolution. Ça, c'est le cadre général. Sur ce cadre, à partir de ce cadre, la jurisprudence a pu poser quelques conditions, qui étaient d'abord l'interdiction des questions implicites. Il faut que la question soit véritablement posée et qu'elle ne soit pas déduite d'un mot ou d'une phrase ou d'une incise. Et il faut que la question et le projet de résolution soient suffisamment clairs pour que les copropriétaires puissent prendre une décision, on va dire, éclairée. À partir de ces principes généraux, la jurisprudence a estimé, dans un certain nombre de cas, qu'on ne pouvait pas avoir de questions groupées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette question groupée, ou parfois qu'on a appelée bloquée ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut un seul objet par question. Et la jurisprudence a contrôlé ça, finalement, pour éviter, c'est pour ça qu'on appelle aussi question bloquée, pour éviter aux syndicats, aux copropriétaires, de se trouver bloqués face à une question qui en contenait en fait deux. Je prends un exemple un peu bête, mais ça serait par exemple l'élection du syndic en même temps que l'élection d'un membre du conseil syndical. Comme si c'était lié, alors que ça ne l'est intellectuellement pas.
Mais ça n'a pas le même objet dans ce cas-là.
Ça n'a pas le même objet, et c'est pour ça que la jurisprudence sanctionne ce type de résolutions bloquées qui n'ont pas le même objet.
Donc le critère de la jurisprudence, c'est l'objet.
C'est initialement, c'était l'objet. Et donc, il fallait découper. C'est comme ça que la pratique s'est instaurée de, comme il a pu être dit, saucissonner toutes les questions avec l'architecte, l'entreprise pour le ravalement, l'entreprise pour la peinture de la porte, l'entreprise, etc. Et c'est quand même apparu un petit peu contraignant en pratique. Ça faisait des choses très allongées, pas toujours très cohérentes. Et finalement, la jurisprudence, mais quasiment à la même époque, c'était des jurisprudences de 2007, a accepté qu'il y ait quelques questions avec un lien assez fort qui puisse être présenté ensemble. Des choses d'abord très élémentaires. Les comptes et la répartition des comptes. La désignation du contrat, la désignation du syndic, pardon, et le vote de son contrat. La modification de plusieurs clauses du règlement de copropriété quand c'était un ensemble cohérent. Et finalement, la jurisprudence a été un peu plus tolérante à chaque fois, jusqu'à s'intéresser moins à l'objet qu'à un projet. Et avec cette idée que si on avait plusieurs objets mais qu'ils étaient indissociables, c'est le terme qu'on retrouve le plus souvent, à partir du moment où les questions sont indissociables, dans ce cas on va pouvoir voter une question qui a plusieurs objets. Et typiquement, le ravalement d'une façade où il y a des balcons qui sont fixés dans cette façade et qu'on va reprendre, par exemple, des nez de balcon, on va pacifier les fers, on va reprendre des nez de balcon, on a un ensemble, un projet cohérent, et on va dire qu'ils sont indissociables, même si c'est pas tout à fait vrai intellectuellement, parce qu'on pourrait les séparer, mais comme c'est un projet, on va le voter ensemble. Et la dernière jurisprudence, dans son dernier état, c'est de dire qu'on va pouvoir ajouter même à ces questions de travaux le vote de l'architecte, le choix de l'architecte, ses honoraires, le choix de la dommage-ouvrage, et éventuellement même les honoraires du syndic, parce que tout ça forme un tout cohérent. Et donc on n'est plus tellement sur l'objet, on n'est même plus tellement sur l'indissociabilité, on est sur le projet cohérent.
Alors, on est sur un projet, alors à condition que ça puisse se voter à la même règle de majorité, et avec la même clé de répartition, puisque à la fin, il y a un seul vote. Marie-Hélène, il y a aussi un sujet avec le VPC, le vote par correspondance, parce que c'est vrai que c'est plus simple finalement d'avoir un seul projet, ça évite des contradictions de vote à l'intérieur d'un même projet, mais en pratique...
Alors, en pratique, le VPC, c'est le problème qu'on rencontre, hein. C'est-à-dire que souvent, les gens peuvent faire des votes qui sont soit contradictoires, soit ne plus participer au vote parce qu'ils sont perdus. Donc, c'est vrai, la question du fait que la résolution elle soit précise et non équivoque, ça va dans le sens de ce que disait Pierre-Édouard, ça évite de diluer des choses, ça devient antipratique aussi, hein, parce que au-delà de la théorie du droit, il y a aussi des praticiens qui tiennent des assemblées générales et des copropriétaires qui y assistent. Il faut quand même que ce soit une certaine ergonomie aussi. Le but, c'est de faire voter des choses qui soient vraiment opposables au tiers claires, donc non attaquables, hein, parce que le but, c'est de la faire vivre, cette copropriété. Mais après, restera la problématique du vote par correspondance, où il y a toujours des gens qui votent pour plusieurs résolutions qui peuvent être contraires, pour plusieurs modalités. Donc là, la solution...
Bon, cela dit, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, sur le formulaire de vote par correspondance, un seul vote pour la résolution dans son ensemble. Et puis,
ce qui est le cas. Hein.
En gros, expliquer aux copropriétaires, c'est un package, c'est à prendre ou à laisser, mais en bloc. Voilà, c'est un petit peu l'esprit.
Et après, c'est l'esprit, et c'est là aussi où le conseil syndical, c'est ce qu'on abordait la dernière réunion, mais l'avis, hein, donc le conseil syndical qui doit produire des avis, ben là, ça peut prendre tout son sens, c'est-à-dire que le conseil syndical peut rédiger un avis qui va aider les gens et éclairer
sur un projet global d'ensemble.
Je pense même que sur les gros projets, il faut organiser quelques réunions préalables d'information si on veut arriver avec un projet bouclé et
viable,
mais sur lequel on a débattu, parce que ce système de réseau unique, évidemment, limite le débat, limite la possibilité d'amender le projet, de le faire évoluer en cours d'AG.
Quitte à ce qu'il y ait peut-être un ou deux projets, c'est-à-dire que quand on a des différents scénarios de rénovation énergétique, on voit qu'on a plusieurs solutions possibles, donc peut-être que c'est effectivement la solution, parce qu'on n'est pas très à l'aise, hein, sur la notion de vote groupé. On a depuis notamment, c'était la loi Moll, où on nous obligeait notamment, par rapport à nos honoraires de syndic, hein, de voter spécifiquement les honoraires du syndic de copropriété. Là, de passer du tout résolution par résolution, hein, avec la notion d'indépendance des décisions, versus demain, une notion de vote bloqué avec une seule résolution, on n'est pas extrêmement à l'aise. Aujourd'hui, quand les gestionnaires rédigent leur ordre du jour, hein, on a toute cette palanquée sur les outils de projet de résolution, et on n'a pas encore pris les conséquences et acté toutes les conséquences de cette décision aujourd'hui. Je pense qu'on...
D'ailleurs, les éditeurs logiciels dans leur bibliothèque de résolution, pour l'instant, sont encore au saucissonnage. Hein, on en parlera tout à l'heure des éditeurs.
On a le droit de saucissonner.
Alexis, un dernier mot. Pierre-Edouard, un dernier mot, pardon.
La difficulté qui peut se poser avec la résolution groupée, légitimement groupée, parce qu'on est sur un projet, au-delà du VPC qui peut poser des difficultés, c'est la mise en concurrence. parce que la jurisprudence aussi de la Cour de cassation a précisé que lorsqu'on avait plusieurs devis, enfin lorsque le syndic avait plusieurs devis, il devait les présenter à l'Assemblée Générale. C'était pas le syndic qui effectuait le filtre de la mise en concurrence, ni le Conseil syndical d'ailleurs, c'est l'Assemblée Générale. Ce qui veut dire que il va falloir réussir, si l'on propose des résolutions en mode projet d'ensemble, proposer plusieurs projets d'ensemble qui permettent une mise en concurrence intelligente des différentes entreprises qui ont pu concourir pour chacun des postes. C'est-à-dire que si on fait, pour reprendre l'exemple, le ravalement avec les nez de façade et qu'on a deux entreprises différentes, il va peut-être falloir faire plusieurs propositions de projets pour réaliser la mise en concurrence valablement. Et c'est là où on trouve la limite, finalement, de ce recours à la question groupée.
Exactement, puisqu'il faut voter pour chaque candidat quand on a une mise en concurrence.
Donc,
et si on se met à faire, des sous-résolutions pour le choix de l'entreprise, autant ça revient à faire des résolutions distinctes.
À la finale, oui, puisque la dernière fois, il y a une jurisprudence où il y avait un seul choix opéré par l'architecte et ça a été retoqué par la Cour de cassation.
Oui, parce que le syndic avait reçu plusieurs offres. Et il avait opéré un choix en amont avec l'architecte et sans doute le conseil syndical. Et la Cour de cassation a précisé que c'était l'Assemblée générale qui était... auprès de qui la mise en concurrence devait être soumise. Et c'était l'Assemblée générale en tant qu'organe délibérant qui choisissait. Et non pas les organes de conseil et d'exécution qui filtraient en amont.
Allez, merci. On passe à la séquence suivante. On a été très complet. La question du copropriétaire.
Les As de la CoPro, la question du copropriétaire.
Je suis présidente du conseil syndical d'un immeuble à Boulogne, Billancourt, avec un chauffage collectif au gaz. Nous nous inquiétons des prix du gaz et nous envisageons peut-être de poser des compteurs individuels pour le comptage de la consommation de chaque appartement. Notre chauffagiste nous a dit que nous ne pouvions pas poser des compteurs thermiques car nous avons un immeuble ancien. Apparemment, nous ne pouvons poser que des répartiteurs sur chaque radiateur, mais nous avons peur que cela coûte cher à l'installation et à l'entretien. Et nous ne sommes pas sûrs non plus de leur fiabilité, au vu des enquêtes réalisées par les associations de consommateurs. Je voulais savoir ce qu'en pensent les experts sur votre plateau.
Alors, merci pour la question. On est en plein dans l'actualité. La question, elle est assez claire. Compteur thermique ou répartiteur? Si répartiteur, alors pourquoi l'un ou l'autre? Et si répartiteur, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça vaut le coup? On en parle en ce moment. Mathieu.
Oui, d'abord, je pense qu'on peut dire que Madame a raison d'envisager l'installation, parce que cette installation est obligatoire depuis 2020, maintenant, dans la plupart des immeubles avec chauffage collectif. Oui, il faut clairement se poser la question. Il faut faire plus que se poser la question, parce que les pouvoirs publics, en cette période où de crise énergétique, où on cherche tout azimut des économies d'énergie, a annoncé que des contrôles seront faits dès l'année prochaine pour identifier les immeubles avec chauffage collectif qui ne sont pas équipés d'installation de répartition des frais de chauffage. Et je vous rappelle qu'il y a des sanctions extrêmement sévères qui sont prévues, hein, jusqu'à 1 500 € par an et par lot principal si l'immeuble n'en est pas équipé. Alors il y aura des mises en demeure préalables, mais on sait que ce sera très simple pour les pouvoirs publics de procéder à des vérifications. Il suffit de consulter le registre des copros, d'identifier les immeubles avec chauffage collectif, d'aller chez un administrateur de biens et puis de demander la liste. Donc c'est un sujet qui va redevenir d'actualité partout où ça n'a pas été installé. Après, pour revenir à cette question, effectivement, il y a deux grands systèmes.
Donc là, il faut bien expliquer. Compteur thermique ou répartiteur.
Voilà, alors il y a le système des compteurs thermiques. Là, c'est assez simple. C'est un système qui, par différence entre la température d'eau de la distribution à l'entrée d'un appartement et sa température à la sortie, va compter le nombre de kilowattheures consommés. Donc va vraiment compter l'énergie. C'est le système le plus fiable, mais qui malheureusement n'est pas possible partout. On peut installer ce type de système quand on a ce qu'on appelle une distribution horizontale, c'est-à-dire une boucle d'eau chaude qui dessert
donc une colonne montante de chauffage typiquement dans les gaines palières, les placards, dans les immeubles neufs.
Alors, c'est pas une colonne montante. Enfin, il y a une colonne montante, mais à partir de cette colonne montante, effectivement, il y a une boucle de distribution qui fait le tour de l'appartement. Et on peut compter la température
à l'entrée,
la température
à la sortie. Et donc, le compteur est posé sur la colonne juste avant la boucle, au départ de la boucle.
Il est posé au départ de la boucle.
Au départ de la boucle.
Voilà, avec une sonde en entrée, une sonde en sortie. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fiable, effectivement, parce que ça compte les kilowattheures consommées. Quand c'est pas possible, parce qu'en fait, on a un système de distribution horizontal, avec là, non pas une colonne par appartement, mais X colonnes.
Hein, donc, dans les immeubles plus anciens.
Dans la plupart des immeubles plus anciens, on a une colonne par pièce et puis sur chaque colonne, en fait, on branche un radiateur. Bah, évidemment, on peut pas compter toute l'eau puisque l'eau ne fait que monter, enfin, continue à monter. Et donc là, on a ce qu'on appelle un système de répartiteur de frais de chauffage, c'est-à-dire qu'on met sur chaque radiateur une sonde qui va finalement faire la différence entre la température du radiateur, la température de la pièce et qui, comme ça, va estimer le nombre de calories utilisées.
Donc, c'est les petits boîtiers posés à plat sur le corps de chauffe.
Exactement, c'est des petits boîtiers qu'on met sur le radiateur avec cette difficulté assez souvent quand on fait des travaux, ils peuvent être enlevés, ils peuvent être bougés, ils sont beaucoup plus directement accessibles que les compteurs d'énergie thermique qui en général sont en gaine. Voilà, alors donc les répartiteurs de frais de chauffage, c'est une solution par défaut si je puis dire, dont la fiabilité est effectivement souvent remise en question mais qui quand même permet d'identifier quelle est la consommation d'énergie. C'est quand même un système qui existe depuis longtemps.
Sachant qu'il y a quand même des coefficients correcteurs par rapport à la situation de l'appartement.
Ça, c'est encore un autre sujet qui est valable aussi bien pour les compteurs d'énergie thermique que pour les répartiteurs. Ça, c'est partir du principe que certains appartements dans un immeuble sont favorisés par rapport à d'autres. Si vous êtes en angle plutôt exposé nord ou si vous êtes au cœur du bâtiment, vous serez...
Si on est contre un pignon, si on est au dernier étage... Voilà.
Dans certains cas, vous allez être pas mal chauffé par les voisins et finalement, vous aurez moins besoin d'ouvrir vos radiateurs. Alors que si vous êtes en façade plein nord, vous serez plus obligé d'ouvrir vos radiateurs. Alors ça, effectivement, pour pallier ce déséquilibre, en fait, cette inéquité, les prestataires d'installations de comptage propose de mettre en place des coefficients correcteurs et ça veut dire qu'en fait ils vont quelque part ils vont simplement appliquer un coefficient à la consommation pour rééquilibrer finalement ces situations géographiques disparates. Mais il y a un autre système qui est prévu dans la loi qui permet là aussi de rééquilibrer. C'est-à-dire que même si vous fermez complètement tous vos radiateurs, vous allez quand même contribuer aux dépenses d'énergie, puisque la réglementation prévoit que seuls 70% des dépenses d'énergie globales sont réparties selon les compteurs ou les répartiteurs. 30% restent répartis selon la clé de répartition prévue au règlement de copropriété, notamment pour éviter ces inégalités. On sait que dans certains appartements, on peut quasiment fermer complètement les radiateurs,
d'accord,
on est chauffé par les voisins.
C'est pas sur 100%, c'est sur 70%. Alors pour répondre en complément à notre président du conseil syndical, l'individualisation des frais de chauffage se vote à la majorité de l'article 25, donc la majorité des copropriétaires, c'est le 25 petit L.
Exactement.
Et on a un article 24-9 également dans la loi de 65.
Pour conclure, il y a effectivement de grandes discussions sur l'intérêt économique d'installer des compteurs. C'est d'ailleurs un des cas d'exception prévu par la réglementation. Si on arrive à prouver que économiquement, ça coûte plus cher d'installer les compteurs par rapport à l'économie de consommation qui va être réalisée. Les pouvoirs publics, l'ADEME annonce 15% d'économie d'énergie. C'est remis en question, effectivement, notamment par les associations de consommateurs. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes, compte tenu de l'explosion énorme des frais d'énergie, de ne pas du tout rallumer le chauffage. On nous demande, est-ce que c'est possible de ne pas rallumer le chauffage en fait, ce qu'on peut dire, c'est que si jamais il y a des installations de répartition des frais de chauffage, eh bien, cette décision, elle est individuelle, finalement. On n'a pas à se poser la question d'allumer ou pas allumer. Chacun peut piloter comme il le veut. Et donc finalement, aujourd'hui, c'est vrai que les immeubles avec une installation de frais de avec des installations de répartition sont plus à l'aise par rapport au contexte, par rapport à la situation, parce que chacun peut décider, moi je préfère être chauffé quitte à en assumer le coût. À ce moment-là, j'ouvre mes radiateurs et avec les installations de répartition, je paierai plein pot. Ou je ne peux pas me permettre de me chauffer compte tenu du prix. Je coupe tout et j'assumerai
d'accord.
que 30%.
Alors, on va en parler de cette question à la fin sur la facture de gaz. Merci Mathieu, c'était très technique, mais je pense qu'on a bien répondu à cette dame et qu'on a bien cerné les enjeux de l'individualisation des frais de chauffage. Je vous propose qu'on passe à la séquence suivante, le métier de syndic.
Les as de la copro, le métier de syndic.
Alors là, on a deux questions. La première, Alors, on va débattre un petit peu. En copropriété, quand on est syndic, on ne peut pas se faire substituer. On le sait, mais aujourd'hui, il y a des pratiques qui commencent à apparaître, à voir le jour. La question, c'est le syndic peut-il se faire substituer? Peut-il déléguer sa mission? Peut-il sous-traiter une partie de ses tâches? On a trois notions: substituer, déléguer, sous-traiter. On sait qu'on a un contrat intuitif personné, on sait qu'on a l'article 18 de la loi de 65, on a également la loi Hoguet. Il faudrait qu'on puisse faire un petit peu le clair sur ces notions. Pierre-Edouard.
D'abord, pour tordre une idée alors, qui n'est pas reçue, parce que c'est vraiment la Cour de cassation qui l'a énoncé, à mon sens à tort, c'est que la substitution n'est pas cession. C'est-à-dire que la cession du contrat, c'est lorsque on change tout à fait de co-contractant, donc on a un mandataire qui est syndic, qui cède son contrat, et on a un nouveau co-contractant pour le syndicat des copropriétaires. Et ça n'est pas la substitution, c'est la cession. La substitution, en droit commun, en droit du mandat, selon l'article 1994, c'est un mandataire qui va faire réaliser sa mission ou partie de sa mission par une autre personne et sous sa responsabilité. C'est ça, la substitution. Et la loi de 1965, où c'est l'article 18, grand 4, a prévu une dérogation aux règles de droit commun. Parce qu'en droit commun, le mandataire peut se substituer une personne sous sa responsabilité sans en avoir l'autorisation du mandant. En droit de la copropriété, c'est l'inverse. Le législateur a prévu une règle stricte, c'est que le syndic ne peut pas se faire substituer, il est seul responsable de sa gestion. Et ce sont deux phrases...
C'est marqué comme ça
dans l'article 18. Et l'Assemblée, néanmoins, l'Assemblée peut autoriser le syndic à déléguer pour une mission précise, peut déléguer un pouvoir à la majorité de l'article 25. Ça veut dire que le syndic qui souhaiterait voir traiter une de ses missions...
Par exemple, la comptabilité.
Par exemple, la comptabilité. Par exemple, la détention des archives. Par exemple, le suivi de travaux.
Des convocations d'Assemblée générale.
Alors, l'envoi des convocations générales, d'un point de vue strictement matériel, on pourrait peut-être le distinguer, parce que là, il n'y a pas de délégation au sens strict, puisque c'est une tâche matérielle. Donc, il n'y a pas une délégation de pouvoir.
Donc, ça voudrait dire que le critère de validité, ce serait, est-ce qu'on est dans un acte matériel, purement matériel, ou est-ce qu'on est dans un acte juridique,
qui nécessite un pouvoir et une représentation du syndicat des copropriétaires. Donc, quand on est sur la détention des archives, à mon sens, on a une forme de représentation, parce que la détention des archives, ça n'est pas seulement une conservation physique, c'est aussi la transmission des archives, c'est son classement, c'est son organisation, etc.
D'ailleurs, c'est le contrat de syndic en parle, de la détention des archives et de la possibilité de déléguer.
Des missions essentielles visées par l'article 18 de la loi, comme la tenue de la comptabilité, qui emporte des conséquences juridiques auprès des copropriétaires, avec la répartition individuelle, etc. Donc sur ces tâches-là, je serai... très prudent sur une quelconque délégation, réalisation par un tiers, sans une autorisation préalable par l'Assemblée générale. Et il faut, je pense, corréler ce texte de l'article 18 avec l'article 1er de la loi Hoguet, qui dispose que pour exercer des tâches, et cette fois c'est beaucoup plus large que l'exercice de pouvoir, ça peut être des tâches matérielles répétées, l'article 1er impose à tous les professionnels qui exercent de manière répétée des tâches, même accessoires, et même prêtent leur concours à des professionnels, sont assujettis aux dispositions de la loi Hoguet, donc doivent être titulaires d'une carte professionnelle, avec toutes les conséquences que ça implique. Et quand on rapproche les deux textes, à mon sens, ça veut dire que le syndic ne peut pas déléguer à n'importe qui la réalisation de tâches, même matérielles, si cette personne-là s'inscrit dans un concours régulier, même date accessoire. Et on voit bien comment la loi de 1965, finalement, elle a voulu protéger les copropriétaires d'une personne qui deviendrait syndic pour, au fond, ne traiter quasiment aucune de ses missions et les faire sous-traiter par des personnes qui le feraient moins cher qu'elle et prendre des honoraires à ce titre. Et c'est ça, je pense, le dispositif de l'article 18, grand 4. C'est seul responsable au sens de « il n'y a que lui qui doit le faire ». il ne peut se faire substituer, et l'Assemblée peut toutefois autoriser, quand c'est utile, par exemple, lorsque le syndic n'a pas, parce qu'il n'a pas toujours les compétences pour réaliser toutes les missions qu'on lui demande, elles sont extrêmement larges, et dans ce cas-là, le syndic peut avoir intérêt à dire « je ne suis pas compétent sur ce sujet, je vous prie de bien vouloir m'autoriser alors... à me substituer », et même si c'est lui qui conserve à sa charge le coût de la prestation qui est déléguée. Parce que, évidemment, dans la détention des archives, il y aurait deux mécanismes différents, qui sont d'ailleurs prévus par la loi. Il y a la délégation de la détention des archives à la demande du syndicat des copropriétaires. C'est le syndicat qui veut que les archives soient conservées par un tiers, et dans ce cas-là, le syndicat va les financer. Et dans un autre cas, c'est le syndic qui veut parce qu'il n'a pas la place, et le syndicat, lui, n'a rien demandé. Et dans ce cas-là, il va déléguer, il doit se faire autoriser, et il en conserve la charge financière.
Alors Alexis, c'est important ce qu'on est en train de dire. Je prends l'exemple typique qu'on rencontre le plus souvent, la comptabilité. Hein, un tiers sous-traite ou fait pour le syndic la comptabilité. Est-ce que ça voudrait dire, par rapport à ce que dit Pierre-Édouard, que l'Assemblée Générale devrait expressément autoriser le syndic à externaliser, à sous-traiter sa comptabilité par un tiers, une autre société, une autre personne?
Quand on écoute Pierre-Edouard, oui. Après, le sujet, alors, c'est vrai que sur cette thématique-là, je ne sais pas si vous faites la différence entre la délégation et substitution et la sous-traitance, parce que quand on sous-traite, on conserve la responsabilité. Quand on sous-traite, on conserve la responsabilité. Quand on délègue, on transmet la responsabilité qui va avec. Et donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a différents modèles. Alors, c'est le sujet plus large du métier de syndic de copropriété, c'est-à-dire qu'on est censé être des généralistes du tout et du spécialiste du rien. C'est toujours ce que je dis.
En tout cas, spécialiste de la compta copro.
Quand on fait les définitions, mais c'est vrai qu'on ne réduit pas notre métier aujourd'hui.
Et en interne, de la comptabilité. En interne, on embauche des comptables qui sont les préposés du syndic.
Tout à fait. Et donc là, aujourd'hui, on a des nouveaux modèles qui arrivent tant bien que mal à émerger. On entend parler de franchise en immobilier. Donc c'est vrai que du coup, en fonction de ce que disait
avec des services support, administratif,
des fonctions support, et donc le syndic serait au-dessus, conserverait sa responsabilité, mais voilà, pourrait activer divers leviers sur la comptabilité, sur la convocation, sur la gestion des gardiens et des employés d'immeubles, potentiellement demain des travaux.
Oui, parce que les fiches de paye, c'est assez généralisé qu'elles soient sous-traité.
Bah, et oui, c'est sous-traité. Pourtant, on peut considérer que ça fait partie de la mission régalienne du syndic.
Le bulletin de paye est quand même logoté au nom du cabinet.
Tout à fait. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu sur... je sais pas si encore une ligne de crête. La loi date de 65. On est en 2022. Est-ce que la loi est encore à jour par rapport aujourd'hui à notre période 2022 avec tous ces sujets d'informatisation, dématérialisation, d'externalisation?
Bah, la tâche du syndic s'est complexifiée, donc automatiquement on se dit que ça se complexifie, donc je vais chercher des prestataires pour m'aider à faire mon travail, mais je reste responsable. Pour autant, on a l'article 18.4. Le syndic ne peut se faire substituer.
Je pense que la loi peut être parfaitement adaptée. Il s'agit aussi d'une forme de transparence, et je crois que c'est ça qui était voulu par le législateur de l'époque, c'est qu'il y ait une transparence vis-à-vis des copropriétaires en demandant l'autorisation. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas le faire parce que je... Et en toute franchise, je ne suis pas compétent, ou ça ne fonctionne pas, ou si je devais le faire, ce serait beaucoup plus cher. C'est un discours que, je pense, des copropriétaires peuvent entendre, et de dire, on va le faire en sous-traitance avec quelqu'un, on va déléguer cette mission à un tiers, autorisez-moi à le faire. Et les copropriétaires disent oui ou non. Donc c'est tout à fait possible aujourd'hui de faire tout ce qui vient d'être évoqué. On peut totalement...
C'est l'application stricte de l'article 18.4.
Exactement. Et on peut le faire à condition d'avoir cette transparence vis-à-vis des copropriétaires qui consiste à dire, ça n'est pas moi, c'est un tiers, autorisez-moi.
Alors, bon, je crois qu'on peut encore parler longtemps, mais ça semble assez clair. Il y a des sujets, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de franchise. En réalité, le mot franchise est un petit peu trompeur, parce qu'on est, c'est surtout de la sous-traitance, de tout l'administratif, de tout le back-office, de toute la comptabilité. C'est pas vraiment une franchise, c'est plutôt de la sous-traitance. Et reste effectivement, comme vous le disiez, Pierre-Édouard, est-ce que le sous-traitant ou le franchiseur ou le délégataire est titulaire ou pas de la carte? Ça, c'est encore un autre sujet. Je propose qu'on enchaîne tout de suite. Mathieu, excusez-moi.
On peut quand même aussi inverser la question. Hein. Vous parliez des franchises. franchise. On sait aussi qu'on a des systèmes de plus en plus de syndics bénévoles, syndics coopératifs qui se font assister, là aussi dans le cadre de leur gestion. Il ne faut pas oublier que le syndic est seul responsable de sa gestion. Voilà, c'est le syndic qui portera la responsabilité quoi qu'il arrive, et ça, quelles que soient les promesses que font ces personnes, ces franchiseurs ou ces plateformes.
Si le syndic effectivement est mis en cause, il va se retourner contre ce prestataire, mais uniquement sur le fondement d'un devoir de conseil.
Il restera
pas sur le
seul
fondement
responsable de sa
gestion. De la gestion. Je propose qu'on enchaîne tout de suite sur la question suivante. On est toujours dans la séquence le métier de syndic. On va parler un petit peu des logiciels métiers. C'est un petit peu lié. Le logiciel, l'éditeur n'est pas un sous-traitant. Hein, c'est un pur outil. Il n'exécute aucun acte de gestion, ni même d'acte administratif. Enfin, quoique, je vois Mathieu. Quoique, l'éditeur. Alexis, on parle des éditeurs de logiciels. Peut mieux faire ou pas?
Alors. Je sais pas si vous avez, enfin, je sais pas si tous les matins, quand le gestionnaire allume son PC, ils s'en foutent de joie quand ils regardent leurs interfaces. Enfin, j'en ai jamais vu pour ma part. C'est vrai que aujourd'hui, on a un réel sujet, une réelle problématique, c'est qu'on a d'un côté des éditeurs qui sont là depuis 30, 40, voire 50 ans, et puis de l'autre côté, depuis à peu près 5, 6 ans, peut-être un peu moins de 10 ans, on a un tsunami de start-up qui a débarqué, dont on ne sait où, mais et donc du coup on se pose
et
la question.
Qui arrivent avec leur propre système d'information
et on a l'administrateur de biens entre les deux, syndic de copropriété, qui n'a pas vu comme peu de monde qui n'avait pas vu peut-être le grand tournant du numérique et de l'apparition. Alors Internet, ça fait quand même 20 ans. Et donc, on a l'administrateur de biens qui est au milieu et qui se pose pas mal de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait se poser la question, s'il y a autant de start-up qui se sont développées depuis un peu moins de 10 ans, c'est peut-être qu'à la base, il y avait un souci.
Donc, les éditeurs de logiciels, de recherche. Faire, alors
Je pense que oui. Enfin, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez débattre potentiellement avec eux. Ce serait intéressant de les interroger pour qu'ils nous expliquent un petit peu les raisons pour lesquelles aujourd'hui, en phase 2, se trouve un certain nombre de start-up.
Soit bien d'accord, on parle des fonctions, on parle de l'ergonomie.
Ah, de tout. Fonctions et ergonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parlait de la comptabilité tout à l'heure. À l'époque, les premiers éditeurs, c'était des outils de comptabilité pure. Maintenant, notre métier, c'est plus la comptabilité, je dirais que c'est un prérequis de base et on se pose même plus la question.
Oui, puisque maintenant, sur l'éditeur, on a l'extranet pour l'information du copropriétaire, la possibilité aussi de chatter, communiquer directement sur le système,
mais encore pas partout.
Faire les visites d'immeubles directement avec le logiciel, faire l'AG directement avec le logiciel.
Faire l'assemblée générale, c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, ils essaient d'étendre un petit peu ce qui est bien, ils essaient d'étendre un petit peu tous les modules de fonctionnalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez problématique. Alors, peut-être qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ce retard, le fait qu'effectivement la marche ait été loupée il y a une quinzaine d'années avec Internet. Peut-être que c'est peut-être l'industrie immobilière de l'administration de biens qui est peut-être pas suffisamment rémunératrice. C'est peut-être un problème de vision stratégique. C'est peut-être un problème aussi de moyens, parce que ça nécessite de forts investissements. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que ce qu'on regarde quand on voit ce qu'il y a sur le marché, c'est que on peut, alors, Il y a eu des grandes étapes franchies. Alors, on n'est pas encore aujourd'hui, quand on se compare à d'autres activités, qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, on parle souvent d'outils de relations clients. Notion de CRM, ça c'est un petit peu notion de CRM. Aujourd'hui, les notions d'API, ça c'est du pur informatique. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore aujourd'hui de vrais outils de relations clients. D'ailleurs, je ne sais pas si quand ils développent leurs produits, ils vont directement interroger des vrais copropriétaires ou même potentiellement des bailleurs pour leur demander ce dont ils ont besoin. Alors, on a franchi un cap depuis 5-6 ans où de logiciels, puisqu'il faut voir un petit peu la tête des logiciels, il y a encore 10-15 ans, c'était parfois du monochrome ou des écrans verts et noirs. Donc, on est passé quand même, à défaut d'outils de relations clients, au moins des outils pour collaborateurs. Donc, on commence, enfin, vous avez votre téléphone sous les yeux, enfin, à travailler avec cet outil, qui doit être notamment et normalement notre outil de demain. C'est-à-dire qu'il faut que les gestionnaires puissent être nomades, et pas, malheureusement, comme c'est un peu trop souvent le cas, derrière leur bureau, puisque les outils sont pas forcément encore ne permettent pas, pardon, de travailler en mode nomade. Ça arrive, et heureusement, ça c'est le point positif qu'on peut apporter, c'est que ça arrive depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu trop long. On n'a pas encore aujourd'hui, quand on compare un petit peu les éditeurs du marché, enfin ça c'est ma vision personnelle, on n'a pas d'outils qui fait véritablement référence. Il y a ces différents acteurs historiques qui, je pense, mettent beaucoup de millions d'euros en termes de développement. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, je reviens sur le monde des startups, quand on voit que des startups, en levant je ne sais combien de millions d'euros, arrivent malgré tout, parce que visiblement, ils arrivent à récupérer des immeubles, à gérer des immeubles en un minimum de temps, d'avoir pu développer des interfaces ou des outils qui, semble-t-il, font office d'extranet, qui, semble-t-il, arrivent à faire de la comptabilité en copro, à faire des répartitions, à faire des appels, à faire de la notification d'informations. On se dit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant et ça nous rend perplexes, en fait.
Alors effectivement, on peut en discuter, hein, les éditeurs. Est-ce que finalement, ce n'est pas eux qui ont loupé le virage numérique ? Peut-être que les syndics n'auront pas mis assez la pression non plus à un moment donné pour qu'ils développent leur système. Bon, Mathieu, chez Foncière, on bosse sur un nouveau logiciel. Bon, donc on est vraiment au cœur de cette problématique.
Alors chez Foncière, on est doublement concerné puisque le groupe Emeria a à la fois un éditeur de logiciels et à la fois Foncière développe sa propre solution. Donc on est doublement concerné. Je rejoins tout ce que dit Alexis. On est en cours de mutation, hein, mais l'ensemble du métier d'administration de biens est en cours de mutation. Avec cette triple recherche qui est, grâce à la numérisation, une automatisation d'un certain nombre de tâches pour libérer du temps aux gestionnaires, pour leur supprimer toutes les tâches sans valeur ajoutée que, encore trop souvent, ils sont obligés de faire. Je ne sais pas, des fiches de liaison après AG, la mise à jour des informations du registre. Tout ça prend beaucoup de temps et est très manuel. On cherche aussi une meilleure ergonomie, c'est certain, hein, puisque pour attirer des jeunes aujourd'hui, il faut quand même des systèmes modernes, des systèmes nomades, comme l'a dit Alexis. Mais ce qu'on recherche aussi et surtout, c'est vraiment l'interaction avec le client, une transparence vraiment très importante, c'est-à-dire que ce que va faire le gestionnaire va s'afficher en temps réel sur l'extranet du client, et puis effectivement permettre au client, à l'occasion d'une AG ou même en dehors, d'avoir des interactions très libres et très faciles avec leur gestionnaire. C'est vraiment les grands axes sur lesquels on travaille.
Des investissements, c'est long, c'est énormément des développeurs, des informaticiens.
Énormément d'investissements.
C'est des grosses équipes, on ne sort pas un logiciel comme ça en 6 mois.
Non, parce qu'on a un métier très complexe, on a un métier à la fois très encadré, mais aussi avec beaucoup d'exceptions. Hein, un administrateur de biens va gérer des syndicats de copropriétaires, mais aussi des ASL, des AFUL. Donc on peut pas,
qu'on est sur l'administration de biens en général, donc syndic, gérance locative,
en général, location. Bien sûr. Voilà, donc c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui est nécessaire, et je pense que, dans les 5 prochaines années, la transformation sera terminée, à la fois sur les logiciels qu'on peut trouver sur le marché, et à la fois les logiciels qu'utilisent les grands groupes.
On aura tous de super logiciels. Moi, c'est vrai que j'utilise plus souvent en tant que gestionnaire le module, le portable du logiciel que le logiciel lui-même au bureau. Je trouve que
c'est le logiciel.
Il y a plus de fluidité, et puis l'ergonomie aussi.
Voilà, bien sûr.
Surtout quand on n'a pas de grosses appétences pour tout ce qui est informatique, etc. On a tous nos téléphones dans la main, on utilise tous plein d'applications, et il faut que ce soit facile, efficace, joli pour le gestionnaire et, comme vous le dites très justement, aussi pour les copropriétaires.
Les clients, mais c'est pour ça que
la banque a muté très vite et très rapidement, et ça s'est fait très facilement. On va plus à la banque. C'est rarissime. On fait toutes les menus opérations et on fait tout avec le téléphone. Moi, je suis la plus vieille d'entre vous, donc je n'ai pas spécialement d'appétence pour ça, mais c'est pourtant indispensable pour pas user les gestionnaires aussi.
Tout à fait, oui.
Les clients et les gestionnaires.
Parfois, les startups s'en prenaient au syndic. Finalement, c'était peut-être pas nous la bonne cible.
Ils auraient dû s'en prendre à nos éditeurs.
Oui, c'est clair.
On n'était peut-être pas forcément la bonne cible.
C'est vrai que sur la transition, alors moi, j'ai un regard un petit peu extérieur parce que je ne le pratique plus. Mais c'est vrai que sur les AG, je peux le dire pour Auralia, peut-être parce que j'ai assisté à une assemblée générale en représentant un copropriétaire, et j'étais avec lui, et en visioconférence. Et j'avais été frappé d'une solution tout en un, maillée entre l'extranet, par lequel on se connectait, pour rentrer dans la salle de visioconférence, et avec des votes en ligne qui s'implantaient dans le logiciel métier du gestionnaire. Et j'avais été frappé parce que j'avais trouvé ça formidable. c'était une technologie développée quasiment en temps réel avec, avec la solution légale qui s'était imposée. Et là, on a une solution véritablement bien développée parce qu'elle est tout en un. La difficulté aujourd'hui pour les logiciels, on le voit bien, c'est le tout déconnecté. Et quand on parle des startups, c'est le problème aujourd'hui des startups qui font de la solution au cas par cas. Et qui font un système de vote d'assemblée générale, un système de visio, un système d'extranet, un système de visite, mais tout ça ne fonctionne pas ensemble. Et ça, c'est peut-être le premier écueil, il faudrait qu'ils se rapprochent. Et la deuxième difficulté, moi, que j'avais constatée, au-delà de l'ergonomie, de la facilité, de la relation client, c'était le problème de l'adaptation aux règles de droit. J'ai deux exemples, mais qui m'ont beaucoup frappé et qui me frappent encore. Le premier, c'est sur le fonds de travaux. C'est quelque chose d'assez, faut dire ce qui est, assez catastrophique, parce que aujourd'hui, je crois qu'on arrive à peu près à s'accorder avec les gestionnaires, les syndics, que le fonds de travaux, quand on fait des travaux en partie commune spéciale, il va falloir répartir en partie commune spéciale, et qu'on ne peut pas le prendre le fonds de travaux en général. Et le problème, c'est qu'aucun logiciel, enfin, à ma connaissance, peut-être
il y a des logiciels qui le font très bien.
Oui, il y en a qui le font très bien.
Formidable. Mais je suis content de savoir qu'il y en a qui le font très bien. Mais il y en a qui le font beaucoup moins bien ou qui ne le font pas du tout et qui obligent à des opérations très complexes de restitution du fonds alors que c'est interdit pour le rappeler en clé spéciale. Et c'est de la bidouille qui est vraiment imposée au syndic du fait du caractère défectueux du logiciel.
Pourtant, le fonds de travaux existe depuis 2015. On se dit que depuis le temps, tous les logiciels auraient pu développer quelque chose.
Bien sûr, c'est marginal, mais si on a du contentieux et qu'on doit se présenter devant le juge en lui expliquant « Mais non, mais monsieur le juge, vous ne comprenez pas, c'est pas le syndic qui a restitué le fonds de travaux, il a été contraint de restituer le fonds de travaux pour le rappeler en partie commune spéciale. » Mais c'est incompréhensible après sur du recouvrement de charges. Et la deuxième chose qui m'avait beaucoup frappé, c'était le VPC avec le temps d'adaptation. Juste pour l'anecdote, mais quand ce système de vote par correspondance a été imposé, on a dit que si on amendait une résolution en cours de séance, le votant par correspondance devenait automatiquement opposant. D'abord opposant. Et on a tous dit tout de suite, non, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, ça va créer des difficultés, notamment pour la majorité de l'article 24, il n'y a pas de raison de le mettre en opposant. Donc le texte a changé, et il est devenu défaillant, c'est-à-dire absent. Il ne participe pas. Ce qui fait qu'on le décompte des voix lorsqu'on vote à la majorité de l'article 24, ce qui est très pratique pour obtenir une décision, tout en lui ménageant la possibilité de contester ultérieurement la décision adoptée. Et les logiciels, il y en a certains qui ne sont toujours pas à jour, et qui automatiquement mettent encore en opposant des personnes qui ont voté par correspondance. Alors ça commence à se tarir, mais pendant 2 ans quasiment, on a eu ça, et toute la période Covid avec toutes les assemblées générales en VPC, on a eu cet écueil, parce qu'il y avait de la visio et du VPC, et s'il y avait un amendement, on passait tout le monde en opposant. Ça n'avait pas de sens, c'est un problème de logiciel,
mais c'est vrai qu'après,
d'automatisme de logiciel.
Alors de charge pour le coup, c'est vrai que l'inflation normative réglementaire, ça n'aide pas, parce que en termes de développement, il y a quand même des éditeurs qui ont été extrêmement agiles et qui ont réussi à mettre en place notamment sur la notion de défaillance. Donc ça s'est fait.
C'est pas du tout pour faire le procès des éditeurs de logiciels, mais il me semble que pour le syndic, avoir un outil qui lui fait commettre des fautes, c'est quand même un véritable problème.
Et là, on parle de sous-traitance. Allez, je vais pas ouvrir le débat. On ouvre la séquence suivante. Je vous remercie. C'était très intéressant. La question du copropriétaire, la deuxième.
Les As de la Copro, la question du copropriétaire.
Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis propriétaire d'un appartement situé à Paris dans le 3e arrondissement et se trouve au-dessous de mon appartement qui est au premier étage des boutiques d'onglerie qui utilisent des produits très volatiles de type acétone et qui se propage malheureusement à travers le plancher et génère des nuisances olfactives importantes dans mon appartement. Alors j'ai tenté à plusieurs reprises de négocier avec les propriétaires de ces boutiques pour qu'ils se mettent en conformité en termes d'aération et d'isolation. Et malgré quelques tentatives compliquées à mettre en place, le problème persiste toujours. Donc c'est très dommageable au quotidien d'être confronté à ces nuisances. Du coup, je suis prêt à entamer des démarches auprès d'un avocat pour que ça avance, parce que ce problème date depuis de nombreuses années maintenant Et avant d'appeler ou d'évoquer ça à un avocat, j'aurais souhaité savoir s'il y avait des alternatives pour régler ce litige. Et c'est à ce titre que je souhaitais vous solliciter et je remercie les experts sur votre plateau pour leur éclairage.
Bon, question intéressante, très pratique. On est dans le trouble du voisinage entre un appartement au premier étage qui subit des nuisances olfactives en provenance de boutiques de rez-de-chaussée. J'ai envie de dire classique en copropriété. Marie-Hélène, qu'est-ce qu'on répond à ce copropriétaire ?
Déjà, le trouble, il faut un peu le définir, ce trouble de voisinage. Le trouble, c'est pas une notion législative, hein, c'est une notion jurisprudentielle et il faut parler de trouble anormaux de voisinage, parce qu'il y a aussi des inconvénients classiques, ordinaires, de la vie en copropriété. Donc, il va falloir ramener la preuve de cette anormalité. Il n'y a pas de liste exhaustive de troubles. Hein, ça peut être... Alors, c'est la première fois que j'entends parler d'une onglerie, mais ça, bon, les trois quarts du temps, ce sont souvent des restaurants, aussi bien pour le bruit que pour les nuisances olfactives. Donc, la difficulté va être de ramener la preuve de ces nuisances et de leur caractère anormal. Et il va falloir ramener la preuve par tout moyen. Donc, ça, c'est la première chose. Constat d'huissier, attestation en la forme légale avec la carte nationale.
Se constituer un dossier.
Constituer un dossier parce qu'on est sur des éléments. À part une mesure, un trouble de bruit où on peut
acoustique,
mesurer.
Ouais,
voilà, acoustique où on peut mesurer. Les décibels, après c'est vraiment des choses où il faut ramasser des faisceaux et des éléments de preuve, et à partir de là il faut voir si ce trouble il est individuel, c'est-à-dire que seul ce copropriétaire en subit les effets, ou s'il est collectif, et si le syndicat des copropriétaires plus largement, c'est-à-dire 2, 3, hein, on parlait de, qu'est-ce que c'est, plusieurs, 2 personnes ou plusieurs personnes également subissent ce trouble. Et là, on pourra envisager une action collective. Alors, l'action sur le trouble de voisinage, donc, c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous me disiez, Gilles, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, avant le préalable procédural, il faut un préalable de conciliation, de médiation. Là, le problème, à mon avis, de l'onglerie, c'est investir sans doute dans des moyens d'extraction et de ventilation. Donc, c'est peut-être ça qui pourrait être l'enjeu de la médiation. Si le trouble est imminent, on peut saisir le juge des référés et là, demander des astreintes. Enfin, là, je laisse Pierre-Édouard éventuellement répondre. Parce que le juge des référés, c'est le juge de l'évidence. Et puis, ensuite, c'est une action devant le juge civil, hein, en fonction du montant. Voilà,
d'accord,
du préjudice. Donc il faut... Le comportement, il n'est pas forcément fautif, hein, il faut le savoir, hein, mais il faut qu'il y ait un lien de causalité avec ce trouble et le préjudice que ça va causer
Constituer un dossier de preuve, tenter l'amiable, oui. Ensuite éventuellement une conciliation, médiation, parce que c'est, normalement c'est obligatoire, mais bon, il y a un arrêt du Conseil d'État qui vient de sortir, et puis après judiciaire. La question peut-être, Pierre-Édouard, on parle, la jurisprudence a créé la notion de trouble collectif. Là, ce monsieur, en l'occurrence, s'il est tout seul à ressentir le préjudice, mais dans quel cas de figure on pourrait imaginer que la copropriété puisse agir en justice ? C'est quoi cette notion de trouble collectif ?
C'est le trouble, ce que disait Marie-Hélène, c'est le trouble qui est ressenti par l'ensemble des copropriétaires.
L'ensemble, ça veut dire tous ou certains ?
Ça veut dire tous. Ça veut dire tous, mais avec une tolérance pour un ressenti plus ou moins important par les différents copropriétaires. Mais il faut effectivement qu'il y ait une atteinte à la collectivité et que ça participe à un trouble de jouissance ou une atteinte à la destination de la collectivité pour que le syndicat puisse représenter. Sinon, ce sont des actions individuelles qui sont mises en œuvre. Et outre les juridictions civiles, on peut aussi, lorsqu'on est face, comme c'est le cas ici, à des activités professionnelles, envisager de solliciter les services d'hygiène de la mairie, parce qu'ils peuvent faire des contrôles, dresser un PV de constat d'un trouble, qu'il soit olfactif ou acoustique, et mettre en demeure le professionnel en question de se mettre aux normes, parce que souvent c'est une problématique de non mise aux normes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les extractions, comme ça a été dit. Et suite à ça, si le professionnel ne s'exécute pas, on va pouvoir saisir le tribunal de police, parce qu'on est sur des infractions de nature pénale. Et là, il va être vraisemblablement condamné à des amendes, ce qui encourage très fortement la personne à agir. Alors, soit on est face à des personnes très récalcitrantes, de mauvaise foi, et qui au fond n'ont pas ne sont pas très inquiétés par des amendes fixées par le tribunal de police parce qu'elles sont assez faibles. Encore que quand on est avec des sociétés, ça peut être multiplié. Et là, il faudra l'accompagner d'une démarche civile pour faire cesser le trouble et faire ordonner cette cessation par tout moyen. Mais la voie administrative n'est pas inintéressante.
Les deux peuvent être menés
totalement peuvent être coordonnés. Moi, je me souviens d'un cas où ça avait été fait. C'était pas une onglerie. C'est toujours assez. Enfin, c'est amusant pour ceux qui ne subissent pas. C'était un salon de massage. Ça sentait l'eucalyptus dans tout l'immeuble. Alors ça fait sourire parce qu'au début on se dit l'eucalyptus ça sent bon, oui mais à tue-tête et toute la journée ça commence à devenir pénible et on a mis en œuvre cette procédure administrative en parallèle et ça n'avait pas été pour le coup très efficace.
Alors, sachant
parce que la personne était très récalcitrante devant le tribunal.
Sachant qu'il y a salon de massage et salon de massage. Il faut aussi rapporter la preuve, alors je ne sais pas si l'avocat se dévoue ou si c'est l'huissier qui s'en gère.
La question s'était posée et personne ne s'était dévoué parce que on a un code d'honneur, on va dire, qui nous interdit de faire ça.
Le syndic peut éventuellement aller chercher la preuve. J'ouvre la dernière séquence, je vous remercie, j'espère que notre copropriétaire a été renseigné. Dernière séquence, séquence politique.
Les As de la CoPro, la séquence politique.
Allez, on reparle de du chauffage, de l'électricité, de la crise énergétique, hein, c'est le sujet. Je voudrais qu'on fasse un petit topo assez pédagogique, informatif, sur le bouclier tarifaire. Comment ça fonctionne? Qui en a droit? Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce qu'on touche l'argent tout de suite, plus tard? Est-ce que c'est un avoir? Mathieu, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo là-dessus?
Oui, alors c'est vraiment le sujet de préoccupation des copropriétés avec chauffage collectif, évidemment. Hein, c'est cette explosion des tarifs de l'énergie. On est passé d'une situation où on avait des prix relativement stables depuis plus de 10 ans, relativement stables, et maintenant on s'en rend compte relativement faibles, à une situation où non seulement les prix ont énormément augmenté, mais en plus on a des variations sur les marchés qui font qu'on ne sait plus du tout comment acheter. C'est devenu un sujet extrêmement délicat. Alors oui, heureusement, on a ce système de bouclier tarifaire, qu'on pourrait plutôt appeler système d'amortisseur tarifaire, hein, parce qu'il n'a pas protégé complètement contre l'augmentation des prix, mais qui permet effectivement d'obtenir un remboursement d'une partie de la facture au-delà d'un certain montant. Alors comment ça fonctionne? C'est en place pour le gaz depuis un moment. Hein, ça a d'abord été mis en place pour une période allant de novembre 2021 au 30 juin 2022.
Pour les copropriétés résidentielles.
Pour les copropriétés d'habitation, oui, enfin avec au moins un lot d'habitation. Et effectivement, le bouclier ne concerne que les lots d'habitation. Avec des exceptions, hein, s'il y a une très forte majorité d'habitation, ça profitera à tous. Donc oui, effectivement, pour les copropriétés résidentielles dotées d'un chauffage collectif au gaz. Donc on a un système de protection qui a récemment été étendu à l'ensemble de l'année 2022. Et alors, comment ça fonctionne? On a le prix prévu au contrat, hein, donc un prix d'achat des molécules de gaz, un prix d'achat du mégawattheure de gaz. On a un prix de référence qui est finalement un prix gelé, et la référence c'est celle du tarif réglementé d'octobre 2021, je crois, à 65 euros.
65 euros le mégawattheure.
Le mégawattheure, 65 euros le mégawattheure. Donc à comparer avec le prix du contrat, qui peut, je sais pas, pour notre exemple, être à 100 euros. Et le principe, c'est que chaque mois, on va compter le nombre de mégawattheures consommés et le bouclier viendra rembourser la différence entre le prix du contrat et ses 65 euros, ou plutôt entre ses 65 euros et le prix du contrat. Mais il y a quand même un plafond, c'est ce qui vient...
Un plafond d'aide.
Voilà, c'est ce qui vient mettre un peu de complexité pour éviter aussi les effets d'aubaine et
donc
des fournisseurs.
Donc 65 euros, c'est le plancher, voilà. Et on a un plafond.
Oui, parce que sinon, ce serait trop simple d'accepter un contrat à 1000 euros, à 2000 euros, ouais. Et puis de se dire que la différence serait de toute façon couverte. Donc il y a quand même un plafond. Et ce plafond, c'est soit le prix du contrat, soit le montant du tarif réglementé tel qu'il devrait être appliqué. Il continue à être calculé, hein, ce tarif réglementé qui a été bloqué en octobre. Il continue à être calculé et le montant théorique, donc le montant de chaque mois, sert à déterminer le plafond. Donc en gros, on a ces quatre données, la consommation du mois, combien j'ai consommé de mégawattheures, le tarif plancher, le tarif du contrat et le plafond. Et donc, le principe du bouclier, c'est un remboursement entre ces 65 euros qui sont le plancher et le prix du contrat ou le plafond.
Ce remboursement intervient quelques mois après le paiement de la facture. Alors voilà, quand même faire une avance de trésorerie.
Exactement, c'est un système de remboursement.
C'est ça le
voilà,
le sujet.
C'est toute la difficulté aujourd'hui. Hein, c'est que, on va être obligé, effectivement, le syndicat des copropriétaires va payer sa facture.
Plein pot.
Plein pot, enfin, en tout cas, au prix du contrat. Et donc, ce n'est que à la suite du dépôt d'un dossier par le fournisseur que quelques mois après, il obtiendra un remboursement. Alors, soit sous la forme d'un avoir si il n'a pas encore payé toutes ses factures, enfin s'il n'est pas à jour de règlement des factures, ou soit sous la forme d'un remboursement sonnant et trébuchant, si je puis dire. Mais effectivement, il y a cette avance de trésorerie qui a impliqué dans toutes les copropriétés ou dans énormément de copropriétés.
Et c'est ça le sujet, puisque
de voter des appels de fonds exceptionnels.
Quand on parle des budgets prévisionnels des copropriétés qui doublent, qui triplent. Voire plus sur la ligne chauffage. Derrière, ça impacte l'appel de fonds qui est envoyé trimestriellement aux copropriétaires. Cet appel de fonds est calculé sur la base du budget, donc il augmente dans les mêmes proportions. Et c'est là qu'on a un vrai risque d'impayé.
Oui, il faut de toute façon aujourd'hui que les syndics fassent un pilotage extrêmement fin de la trésorerie des copropriétés, avec cette difficulté, parce qu'on peut anticiper les effets du bouclier tarifaire et donc prévoir un budget qui sera fixé en fonction de ce qu'on espère se voir rembourser. Hein. Et en même temps, on a un besoin de trésorerie qui fait que si on n'a pas un budget très finalement assez large, ou en tout cas qui n'anticipe pas le remboursement, on va pas réussir à payer. Donc, dans beaucoup de cas, en fait, on préconise d'avoir un budget tenant compte éventuellement des boucliers et donc des remboursements qu'on va obtenir, mais en parallèle voter des avances de trésorerie provisoires qui vont permettre de faire face au règlement des factures immédiatement en attendant le remboursement par le
système. Alors ça, c'est effectivement difficile d'anticiper. Est-ce qu'on signe plutôt des contrats à prix fixe? Est-ce qu'on signe plutôt des contrats à prix indexé? Parce que si on signe à prix fixe, on sait où on va.
Alors, c'est vraiment le deuxième impact très très fort de la situation actuelle, c'est que depuis 10 ans, depuis que les tarifs réglementés ont été supprimés, un peu moins de 10 ans, mais pour la majorité des immeubles, voilà, la pratique était d'acheter son gaz sous forme d'un prix fixe pour une année complète. Ce qui avait l'intérêt.
Deux ans ou trois ans.
Mais
d'ailleurs,
en tout cas,
aujourd'hui, certains contrats bénéficient des prix d'il y a, des très bons prix d'il y a deux ans ou trois ans.
Mais en tout cas, c'était l'usage et on comprend bien pourquoi. Parce que d'abord, il y avait peu de variations des prix. Donc partir sur un prix fixe, c'était pas tellement spéculatif. Et puis, ça permettait d'avoir un budget précis et donc de savoir combien appeler et de pas avoir trop d'écart entre le budget et le réalisé. Aujourd'hui, on a une situation complètement folle qui fait que acheter son gaz en prix fixe, c'est éminemment spéculatif. Ça veut dire, en gros, qu'on parie sur le fait que le prix de l'énergie va monter dans les mois qui viennent. Et quand on voit les variations qu'il y a sur les marchés...
C'est très risqué.
C'est hyper risqué. Ou en tout cas, c'est une décision spéculative. C'est-à-dire que c'est un pari qui est pris. Et qui, aujourd'hui, accepte de prendre le pari? En tout cas, les syndics n'acceptent plus de prendre le pari. C'est-à-dire que soit le conseil syndical, les copropriétaires sont d'accord pour assumer ce pari, soit, évidemment, on se tourne vers un système de prix indexé qui finalement n'est pas spéculatif. Enfin, en tout cas, on ne fait pas de pari ni à la baisse ni à la hausse. On accepte finalement de suivre les variations du marché. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut simplement choisir un système d'indexation qui ne soit pas trop éloigné de l'indexation qui permet de fixer le tarif réglementé qui va déterminer le plafond. En gros, il faut choisir un système d'indexation qui ne soit pas trop décorrélé du bouclier tarifaire pour être sûr de globalement rester sur des prix du mégawattheure inférieurs au plafond du bouclier tarifaire. Enfin, tout ça est hyper technique et il faut bien comprendre que ça amène une complexité supplémentaire dont on n'avait pas forcément besoin dans la gestion des copropriétés.
En tout cas, merci Mathieu. Les gestionnaires copropriétés en connaissent un rayon maintenant sur le gaz, les tarifs, les contrats. C'est vrai que c'est un sujet dont on ne se préoccupait pas plus que ça, puisque les prix n'étaient pas vraiment un sujet. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, donc on est tous devenus des experts. On se fait conseiller, bien sûr, par les énergéticiens, les courtiers en fourniture d'énergie, etc. Mais c'est un vrai sujet. Le plancher au 1er janvier, parce que l'émission sort en janvier, on sera non plus à 65, mais à 75.
Aujourd'hui, donc toute la réglementation est en place pour toute l'année 2022. On attend et on espère qu'elle se mettra en place rapidement pour 2023. Elle a été promise, enfin en tout cas annoncée par Elisabeth Borne elle-même, hein, qui a annoncé effectivement qu'il y aurait une augmentation de 15%, ce qui ferait passer le plancher de 65 euros du mégawattheure actuellement à 75 euros. Il faut quand même savoir que jusqu'en 2021, on achetait régulièrement le gaz autour de 25-30 euros maximum. Hein, et même au cœur du Covid, de la crise Covid, on pouvait acheter à 15-16 euros le gaz sur une année complète. Donc c'est pour ça qu'on parle plus qu'un bouclier, c'est un amortisseur tarifaire. Hein. Le poste énergie a quand même plus que doublé dans la majorité des copropriétés en 2022 par rapport à 2021.
Alors, je vous remercie. Dernière question. En régie, on me demande de conclure, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot, au moins 2-3 minutes. Si on dépasse, c'est pas très grave. Parce qu'on a une actualité, c'est les immeubles. Deux immeubles se sont effondrés à Lille. Certains parlent d'un diagnostic structure. Est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire? Comment on traite les pathologies? Vraiment, très rapidement, Pierre-Edouard, vous avez un avis sur la question?
C'est pas tellement un avis, c'est simplement une réponse, mais qui se trouve dans la loi. C'est qu'à partir du 1er janvier 2023, on va commencer de manière obligatoire pour les immeubles de plus de 200 lots à faire le projet, à réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux qu'on peut anticiper d'ailleurs pour les autres immeubles, parce que l'obligation c'est 2024-2025, mais rien n'interdit de le faire avant, et qui doit prévoir ce projet, susceptibles d'assurer la sécurité des occupants et la structure de l'immeuble et sa stabilité. Donc à partir du moment où on a ce diagnostic, parce que il va intégrer ce diagnostic, il n'y a pas besoin d'en créer un nouveau pour les immeubles en copropriété. Donc statu quo, l'outil, il suffit d'exécuter.
C'est pas un avis, c'est un rappel des dispositifs existants. Je rappelle également en tant que praticien que lorsqu'on a des fissures ou des pathologies, le gestionnaire soit s'en rend compte lui-même à l'occasion d'une visite, soit on a un copropriétaire qui nous fait un signalement. Le réflexe du syndic, c'est de missionner l'architecte de l'immeuble, l'architecte de copropriété, qui va aller faire un premier examen de la situation et de l'évaluation de la gravité de la fissure, de la pathologie, etc. Soit c'est pas grave et on classe et puis on rebouche ou on repeindra plus tard, on ravalera. Soit c'est inquiétant, c'est plus grave. Et là, on fait des investigations supplémentaires. On mandate éventuellement un BET structure qui éventuellement fera un diagnostic structure.
C'est ça, c'est-à-dire un professionnel qualifié, reconnu, qui sera capable de dire à partir d'une étude sérieuse et approfondie s'il y a véritablement un problème ou pas. Et pour les immeubles qui ne sont pas en copropriété, la question pourrait se poser. On pourrait s'interroger, y en a-t-il besoin, etc. Là, il faudrait avoir un raisonnement approfondi et modéré pour savoir déjà si les immeubles qui ont été sont les propriétaires qui sont les victimes, et ces immeubles qui se sont effondrés, de savoir si les propriétaires en avaient la connaissance des défauts de structure. Parce que il me semble, alors je suis pas au fait de tous les dossiers, mais il me semble que dans un certain nombre d'hypothèses, les propriétaires avaient connaissance ou auraient pu avoir connaissance facilement de la situation de l'immeuble et n'ont pas voulu engager ou des diagnostics ou des travaux. Et si c'était le cas de manière avérée et répétée dans la plupart des situations, on se rendrait bien compte que le problème, c'est pas l'établissement d'un nouveau diagnostic obligatoire.
C'est la volonté de faire des travaux.
Mais c'est la véritable responsabilité des propriétaires des immeubles d'entretenir leur patrimoine. Et sur des discussions qu'on a pu avoir de manière assez régulière, c'est que je crois qu'en France, malheureusement, dans un certain nombre de cas, les propriétaires confondent le caractère perpétuel du droit de propriété et le caractère périssable de l'immeuble. Et en fait, comme ils ont un droit perpétuel, ils pensent que l'immeuble lui-même est perpétuel et impérissable. Or, c'est tout à fait faux. L'immeuble, même si c'est quelque chose de solide et de durable, ça périt. La preuve, ça s'effondre. Et donc, il faut décorréler cette idée du droit de propriété qui dure pour toute la vie, si on le veut, et l'immeuble qui, lui, peut à tout moment disparaître.
Un immeuble, ça s'entretient. Mathieu, le mot de la fin?
Non, c'est juste d'abord, je suis complètement d'accord avec Pierre-Edouard sur la mise en œuvre des projets de plan pluriannuel de travaux. On parle d'énormément, enfin, il y a énormément de confusion quand on lit des articles sur le sujet entre le DTG, entre un diagnostic structure que certains voudraient rendre obligatoire. On a aujourd'hui effectivement le projet plan pluriannuel de travaux qui est un diagnostic en lui-même. Ça, tout le monde ne le comprend pas, mais le projet de plan pluriannuel de travaux est réalisé par un prestataire qualifié, hein, en général un ingénieur qui a des connaissances dans le domaine du bâtiment, des pathologies du bâtiment. Donc il y a une analyse du bâti.
Très important, qualifié.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas une liste de travaux qui serait réalisée. Non, c'est vraiment un audit. Enfin, pas un audit très approfondi, mais sur la base de constats visuels, il y a un professionnel du bâtiment qui va faire une analyse du bâti. Voilà, le projet de plan pluriannuel de travaux, c'est pas uniquement pour l'amélioration de la performance énergétique, c'est aussi pour la sécurité des immeubles.
Donc le dispositif existe.
Voilà, le dispositif existe. C'est pas la peine de compliquer. Et effectivement, nous, chez Foncia, on va mettre à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale le projet de plan pluriannuel de travaux pour tous les immeubles construits avant le XXe siècle, même si dans la plupart des cas ce sont des petits immeubles qui n'auront l'obligation de le faire qu'en 2025, on va l'anticiper de manière justement à ce que rapidement un diagnostic ait été fait.
Ce sont souvent ceux qui sont le moins bien entretenus parce qu'avec moins de surface financière.
Aussi, et puis bah, souvent les plus anciens, oui, donc les plus peut-être anciens. Les plus à risque.
Reste après, là.
Oui, un dernier point peut-être, pour rappeler aux gestionnaires que lorsqu'il y a des demandes de travaux privatifs sur les parties communes, et notamment d'ouverture sur les murs porteurs.
J'allais en parler, les murs
voilà,
porteurs.
Ça c'est un point vraiment fondamental, et là il faut être absolument intransigeant, donc sur le principe, pourquoi pas, mais ça doit être strictement encadré par des professionnels, bureaux d'études structures,
La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un projet, d'un BET, ouais.
Oui, et surtout, elle doit être surveillée par... Un professionnel pour le compte du syndicat, pas uniquement pour le compte du propriétaire demandeur. Il faut vraiment que le syndicat des copropriétaires soit hyper vigilant, et donc il faut imposer une supervision par ou au moins une vérification par l'architecte de l'immeuble.
Pierre-Edouard, le mot de la fin.
Les juges du fond d'ailleurs contrôlent dans les résolutions adoptées quand il y a des contestations qu'il y ait bien une étude qui permette de se garantir de la bonne fin des travaux et de son suivi. Et pour le mot de la fin, c'est juste sur le diagnostic, parce que je rejoins le problème de la confusion. On en a parlé en aparté, Gilles, de cette problématique. On a le PPPT qui est imposé, donc le projet de plan pluriannuel de travaux qu'il va falloir réaliser à partir de demain, hein, quand l'émission paraîtra à partir d'aujourd'hui. Et en pratique, on trouve encore le DTG. Parce qu'en fait, et je voudrais juste dire un tout petit mot de ça, c'est que le DTG à Paris, parce que ça ne concerne pas toutes les régions, mais à Paris, l'Agence parisienne du climat a créé un diagnostic qui est malheureusement... Je vais expliquer pourquoi, malheureusement, appelé diagnostic technique global. C'est parce qu'il a été créé avant la réforme. En fait, c'est un diagnostic technique global conventionnel, c'est-à-dire qui est complètement hors cadre du dispositif du Code de la construction et de l'habitation, et qui permet de bénéficier de subventions pour sa réalisation. Et en fait, ce DTG, qui est plus complet que le PPPT, va valoir PPPT. Et il faut que les syndics soient prudents, enfin... puissent être en capacité d'alerter les copropriétaires sur le fait qu'il y aura peut-être des devis qui seront proposés de DTG, parce qu'ils s'appellent comme ça conventionnellement, alors qu'en fait, il s'agit d'un PPPT amélioré. Et c'est vrai qu'on est dans la maison des fous. Je suis désolé pour les auditeurs, c'est la maison des fous. Donc l'Agence parisienne, pardon, du climat représente cette maison des fous. J'en suis désolé aujourd'hui. Mais je suis sûr que dès demain, ils vont corriger cela. Parce que c'est un problème terminologique très simple, parce que le dispositif, lui, qu'ils ont pensé, est bon. Mais attention à la terminologie, on ne fera pas de DTG, on fait du PPPT.
On reparlera, je pense, hein, du PPPT dans une prochaine émission qui touche à sa fin aujourd'hui. Je vous remercie. C'était très intense. Je vous ai un petit peu bousculé sur la fin, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie. Mathieu Mialaret, directeur métier, copropriété, gestion locative chez Foncia. Marie-Hélène Leca, directrice d'agence chez Auralia. Alexis de Coster, directeur métier également, Crédit Agricole Services Immobiliers. Et Pierre-Edouard, docteur en droit, avocat, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le répète, au barreau de Paris et au barreau de Bordeaux. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.